l'enfance de l'art.
Quand j'ai dit à ma mère que je voulais faire comédienne, ma mère qui est elle-même comédienne, elle s'est mise à pleurer. Mais avec une petite bouche assez pincée, et elle mettait sa main devant la bouche, elle faisait comme ça. Et ça m'a assez surprise. Et elle m'a dit, c'est la pire chose que je pouvais entendre venant de toi.
Il y a quelques années, j'ai été au théâtre avec des amis. Puis juste après, on a décidé d'aller dans un bar pour discuter de ce spectacle, de ce qu'on avait vu. Et en fait, je n'avais pas du tout aimé le spectacle. Il y a un monsieur qui m'a entendu dans le bar, qui est venu me voir, qui a voulu en parler avec moi. Alors je lui ai dit, écoutez, c'est nul, 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 n'y allez surtout pas. Vous allez regretter, ne payez pas une place. Quelle a été ma surprise quand j'ai appris que ce monsieur était le metteur en scène.
La la, les schtroumpfs, la la, schtroumpf ira bien mieux. Ça, c'est une chanson que j'ai présentée pour une audition au Conservatoire de Toulouse. C'était un exercice qu'on nous avait demandé. J'étais la première à passer. Et ensuite, d'autres filles sont passées. Et elles, bizarrement, elles chantaient magnifiquement bien. Et je crois que c'est la première fois que je me suis sentie aussi honteuse après un passage sur scène.
L'enfance de l'art. Les masterclass de la comédie CDN de Reims.
Ça va faire quoi, ma famille ?
Qu'est-ce qu'un mauvais acteur ?
Peut-on jouer tous les rôles ?
Est-ce que j'ai ma place ?
Est-ce que la flamme se perd ?
C'est quoi un jeune acteur ?
Aujourd'hui, dans le rôle de la jeune actrice, on a Evelyne Didi.
En fait, il faut savoir que moi, j'ai pas du tout vécu dans un milieu artistique. Personne autour de moi ne connaissait le théâtre, l'art en général. Donc, quand j'ai commencé le théâtre, pour moi, ça se résumait à simplement jouer. Je ne lisais pas, je me cultivais pas. Et du coup, je voulais savoir, toi, c'était quoi tes a priori du théâtre lorsque tu as commencé ?
Je sais pas si j'ai commencé le théâtre, mais un jour... J'ai regardé un petit film Super 8 que mes parents avaient fait de moi vers, mettons, 6 ans. Et en regardant ce film, ce petit film, là, j'ai vu alors une petite fille qui lit un livre. Et elle fait, comme ça, le mouvement de la lecture. En faisant ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. En fait, le livre, il est à l'envers. Et puis, il y a un moment où on m'a filmé en train de faire une culbute dans l'herbe. Et la culbute, elle est d'une maladresse invraisemblable, mais en sachant qu'il me filme. Et franchement, ça... c'est toujours là. Donc moi, je pense que ça faisait longtemps que c'était là. Mais d'abord, il faut que je vous dise, moi, j'ai pas fait d'école. Quand je suis allée à l'école au lycée, il y avait un club théâtre et je suis allée. Mais le théâtre, au départ, à cause du lycée où j'étais, où il y avait 3500 filles, et bon, il y avait des sorties qui s'appelaient culture et jeunesse. On allait au théâtre et il y avait des garçons. C'était l'endroit où on rencontrait les garçons. Donc au départ, moi, l'amour du théâtre, c'est d'abord l'amour des garçons.
J'étais au lycée et c'était mon tout premier cours de maths en seconde. Et lors du premier cours, le professeur de maths nous dit « Vous êtes 14 à faire l'option théâtre, il n'y en aura qu'un seul d'entre vous qui va réussir. » Non. Ouais. Et ça m'a foutu un coup énorme. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que toi aussi, tu as eu ce genre de remarques
Moi, à l'école, une des phrases qui m'a le plus marquée, c'est « Evelyne Didi, vous êtes une idiote. »
Wow.
Oui. Et cette phrase, elle est restée, elle reste. Mais la vie fait que on répond aux phrases comme ça. Donc c'est pas si mal.
Vous lisiez beaucoup de pièces de théâtre quand vous étiez jeune ?
Jamais, non. J'aime pas lire les pièces de théâtre.
Même encore aujourd'hui ?
Même encore aujourd'hui, j'ai du mal, oui.
Ok.
Ouais, ouais, c'est comme ça. J'aime lire, avant tout, et basta. Je lis. Les pièces de théâtre, parfois, elles sont déceptives. Et moi, je comprends une pièce de théâtre une fois que je commence à la travailler. Et après, on voit okay. ce qui se passe. Ah, il faut que je vous parle de là d'où je viens. Là où je suis née, c'est Saint-Étienne. C'est une ville noire. Moi, quand j'étais petite, elle était toute noire à cause du charbon. Donc, c'était une ville moche, avec des gens complètement... les habitants de cette ville, des gens cassés, moches, mais moches beaux. Et c'est une chance incroyable d'être née là, parce que tous ces gens, il y avait toujours un sourire prêt à rire. Dans une ville, Saint-Étienne, c'est toujours comme ça. La ville est joyeuse. Il y a des bistrots partout. Ça restait ouvert toute la nuit. C'était une ville folle. Et alors, donc, il y a une dame, une Anglaise, à Saint-Étienne, qui cherchait des jeunes gens pour jouer Macbeth en anglais. Et j'ai dit moi. Et j'ai joué dans une salle qui s'appelait, et qui s'appelle, je pense toujours, oui, la salle des mutilés du travail. Donc on a joué cette pièce où je faisais Lady Macbeth, j'avais 17 ans. Et là, dans la salle, il y avait Alain Françon et Jean Dasté. Je ne sais pas si vous connaissez Jean Dasté. C'est un monsieur qui, dans la ville de Saint-Étienne, était tout le monde, en le croisant, le saluait. Il lui disait « Bonjour, monsieur Jean, bonjour ». Donc, eux, les deux-là, ils étaient là. Et les deux, ils sont venus vers moi et ils m'ont dit « Est-ce que tu veux travailler avec nous ?» Enfin, Jean Dasté, il m'a dit « Est-ce que tu veux travailler avec moi ?» Et Alain, « Est-ce que tu veux travailler avec moi ?» J'avais deux propositions.
Tout ça en une soirée.
Oui.
C'est sympa.
Le rêve.
Oui. Alors, j'ai dit à Alain qu'on avait le temps de travailler ensemble, mais que j'allais dire oui à Jean Dasté pour que mes parents soient un petit peu tranquilles. Mais franchement, à l'âge que j'avais, à 18 ans, où dans ma tête, ça ne voulait pas dire grand-chose. Ça ne voulait pas dire que ça y est, je fais du théâtre. Oui. C'était impensable pour moi. Jean Dasté, il m'avait donné un rôle de fille muette dans Le Médecin malgré lui. C'est pour ça que je déteste les pièces de théâtre de toute façon. Bon, bref. Mais il m'avait dit, tu verras, c'est une fille qui dit non. Alors, j'ai fait la fille qui disait non. Et après cette année-là, j'ai dit non, je ne veux pas travailler dans les théâtres comme ça. C'est trop classique. Et je suis partie en Afrique avec des amis pour faire du théâtre pendant un an. Mais pendant un an, c'était ça mon école de théâtre, parce qu'on était dans des voitures et on s'arrêtait. Il y avait des gens qui arrivaient de partout. On jouait et ils nous payaient en nous donnant à manger et en nous donnant des bons d'essence pour continuer. C'est-à-dire, pendant un an, je n'ai pas vu d'argent. Quand les voitures ont été cassées, parce qu'évidemment, un an en Afrique, en voiture, dormir, tout ça, c'était génial. Mais voilà, on est rentré en France et c'est là que j'ai dit... À Françon, on est là. Voilà. Ça, c'est un petit bout du début.
Quand j'ai commencé le théâtre, j'étais au collège. Et je pensais pas du tout en faire mon métier. En fait, je savais même pas que c'était possible
voilà.
d'en faire son métier. À l'origine, je voulais être soigneur dans un zoo. Je voulais être avec les otaries. Parce que j'adorais les otaries. D'accord? C'est encore mon kiff. Ouais, sache-le. Et j'ai attendu vraiment longtemps. J'ai attendu d'être au lycée pour comprendre que c'était un métier d'être comédien. Ben... Toi, qui... est-ce que c'est Alain Françon qui t'a dit tu peux en vivre?
Non, rien du tout. Moi, je sais pas encore que c'est un métier.
Toujours pas?
Non, je rentre pas.
C'est génial.
Je ne peux pas y penser. J'ai pas envie que ce soit un métier. C'est plus compliqué que ça. Comme je dis, je me suis fabriquée avec les rêves. Ça veut dire que, en ce qui concerne le cinéma, par exemple, j'avais vu La Strada et je rêvais de jouer avec Fellini. Alors, je suis allée à Rome et je suis allée à Cinecittà. Je me suis faufilée. Et je suis allée sur le plateau de tournage de Ginger et Fred, comme ça, en me disant, il va me voir, il va me prendre, c'est sûr. Et à un moment donné, je l'ai vu arriver, Fellini, il a regardé son plateau et tout ça. Et tout d'un coup, j'ai vu ses yeux sur moi, et dans ses yeux, j'ai vu que non. Que non, surtout pas. Que j'étais plutôt. Qu'est-ce que je foutais là, quoi. Et donc, je me suis enfuie. Et ce rêve-là, ça a raté. Mais beaucoup de temps plus tard, j'ai eu un autre rêve aussi fort que tourner dans un film de Fellini. J'ai vu un film de Coris Maki. Et un jour, eh bien, je l'ai rencontré. Et il m'a dit : tu veux faire Mimi dans La Vie de Bohème ? Et là, le rêve est arrivé. Là, le rêve est arrivé. Ça veut dire que moi, je ne sais pas, mais si je veux parler de cette enfance de l'art, c'est que moi, j'ai la capacité de désirer beaucoup les choses et de temps en temps, ça arrive. Basta.
Moi, il n'y a pas un jour sur le plateau où je trouve que je suis bonne. Vraiment, j'ai l'impression d'être nulle, mais de chez nulle. Mais c'est horrible et ça me fout des doutes. Et surtout que j'ai ce mini Louise sur mon épaule qui me dit « Non, là, ce que tu fais, c'est pas bien. Faut pas le faire. Faut pas faire ça. » Et ça m'empêche d'avoir une liberté sur le plateau et moi de me laisser aller et de faire ce que j'aimerais faire. Et ça me démotive et ça me plombe. Est-ce que toi aussi, à un moment, tu as eu des moments comme ça où...
Alors, il faut que tu arrêtes avec ça. Non, mais parce que c'est vrai. C'est normal. Si tu n'étais pas comme ça, ce ne serait pas normal. Les gens qui ne doutent pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Puisqu'ils ne doutent pas, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ? Rien. Il ne faut pas avoir peur. Juste pas avoir peur. Il faut absolument... accepter le ridicule de tout ce qu'on peut faire.
Mais pourtant, ce qui est drôle, c'est que moi, dans ma vie, j'adore faire rire, j'adore être ridicule, mais sur le plateau, je n'y arrive pas. C'est quand même assez drôle, ce serait plutôt l'inverse.
Parce que le plateau, c'est un drôle d'endroit. Parce que il faut laisser la peur de côté et en même temps, il faut accepter d'être fragile. Il y a une chose à faire, c'est de toute façon, quand on n'est pas seul sur le plateau, c'est de regarder les autres, de les écouter. Et toi, tu réponds. Et en répondant aux autres gens, tu parles de toi.
Quand j'étais au conservatoire, j'avais une professeure qui m'a dit « Ambre, des brunes comme toi, il y en a des milliers, démarque-toi ». Moi, je voulais savoir comment est-ce que tu as fait justement pour te démarquer, pour trouver ta singularité.
Mais quelle singularité ? Mais tout le monde a une singularité. Il faut te mettre dans des situations où tu te déplaces. Ou alors, il faut que toi, tu fasses des sortes de projets par rapport à ce que tu joues, évidemment.
Oui.
Et que tu n'en parles à personne, surtout tu dis, tu le fais, quitte à te planter, mais au moins tu te seras déplacé quelque part pour qu'on te dise plus ça. Mais c'est quand même un énorme travail, le théâtre. Il faut faire.
Mais c'est quelque chose qu'on me dit souvent. Ambre, ne cherche pas à comment faire, fais-le.
Oui, fais-le, mais aussi pense-y. Quand même un petit peu.
Un petit peu, oui.
Oui.
Comme je disais tout à l'heure, ma vocation, elle est venue à partir du lycée. Et j'ai réfléchi et je me suis dit qu'en fait, j'avais fait beaucoup d'autres activités avant, quand j'étais plus jeune. J'ai fait du badminton, du hand, beaucoup de natation et beaucoup d'équitation.
Du sport, alors?
Plutôt du sport, voilà. Mais qui, pour moi, était une passion, sur le moment. Et chacune de ces activités, du jour au lendemain, je les arrêtais. Non pas parce que je n'aimais plus, non pas parce que j'étais plus passionné, mais parce que je ne ressentais plus la nécessité d'y aller. Alors, de temps en temps, j'ai peur. Je me dis, est-ce que le théâtre, peut-être à 30 ans, du jour au lendemain, je me dis, non, bah en fait, c'est fini. Non.
Attends, mais t'es fou, là.
J'ai peur, Evelyne.
Le théâtre.
J'ai peur.
Le théâtre. Non, mais dans le sport, tu as peut-être un moment où tu te dis, ouais, là, mon corps, il ne répond plus. Mm. Mais regarde, t'as vu l'âge que j'ai, moi? J'ai 75 ans. Mais la scène, elle te permet de faire ce qu'il faut faire. L'ennui, c'est autre chose qui pourrait te faire quitter ça. Je supporte pas ni de m'ennuyer au théâtre en travaillant, ni, par exemple, j'ai des choses, je sais que je veux pas. Je veux pas la redondance, par exemple. Ça, je veux pas. Alors, donc, si je soupçonne que la personne qui me propose du travail, ça va être ça, et j'ai du nez maintenant, eh ben, j'y vais pas. Moi, je veux travailler avec des gens qui ont des choses à dire, qui ont des choses à inventer. J'aime les gens qui inventent des choses.
Mais quand on est sur un spectacle qui tourne, comment est-ce qu'on évite la redondance en tant qu'acteur ?
Comment on continue à être vivant ? C'est pas une technique, c'est une catégorie, c'est-à-dire une catégorie éthique qui te dit « je suis là ». Il n'y a pas beaucoup de choses où tu es là. Et une fois que tu l'as fait, c'est fini. C'est fini, c'est mort. On s'envole. Mais le lendemain, t'es toujours là et tu dois être juste au présent de ce que tu fais. C'est difficile. C'est difficile parce qu'on a peur. On a peur, alors on veut toujours aller plus loin, vite. C'est pas qu'il faut être lent. Mais il faut maîtriser le temps qu'on a. Par exemple, les trous de mémoire, c'est extraordinaire. Parce que ça sera rien, mais ça sera quelque chose. Voilà, au moins.
On a eu un stage et on jouait Don Juan. Et j'ai galéré, mais galéré. Pour, je pense, le mot le plus simple au monde, oui. Oui, je vois bien que vous ne m'attendiez pas, vous êtes surpris, nanana, etc. Et ce oui-là, je n'ai jamais su le faire. Je me disais oui le matin en me réveillant, oui en mangeant, oui en dormant, je n'y arrivais pas. Est-ce que tu as un conseil pour que je puisse vivre ma vie en sachant que j'aurais pu faire ce oui ?
Eh ben, t'aurais pas dû le faire le matin au petit déjeuner en disant
ah mince.
Oui, 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 oui. T'aurais dû te mettre, je sais pas quel oui tu devais dire.
C'était un oui, je vois bien que vous ne m'attendiez pas.
Ben oui, non, mais ce oui, tu en fais une phrase. Je sais très bien ça. Il y a des mots qu'on peut pas dire et tout ça. Mais par exemple, j'ai eu la chance de rencontrer un géant metteur en scène qui s'appelle Gruber, Klaus Michael Gruber. Et lui, on a fait avec lui un spectacle avec Faust. Mais lui, la première chose qu'il nous a dit, il nous a dit les mots, c'est des cailloux. Les mots, ils ont une consistance. Il faut les aimer, les mots. Nous, en français, c'est très difficile. Le français est plat. Donc, on bute sur des choses comme ça. Tout d'un coup, il y a un mot comme ça, oui. Et alors, tu dis yes. C'est plus facile de dire yes que oui. Vraiment. Donc, il faut faire encore plus de travail que si tu le disais en allemand ou si tu le disais en d'autres langues.
Eh bien, je pense que maintenant, à chaque fois que je vais devoir dire oui, je dirai « yes
». Moi, mon petit souci, c'est que j'ai tendance à faire rire sur le plateau. Et ça devient une habitude. Alors, pour casser cette chose-là, dernièrement, j'ai essayé de travailler l'éveil du printemps avec une camarade. Et dans cette scène, à la fin de cette scène, qui n'est pas drôle du tout, je suis censé battre mon ami. Oui. La battre presque à mort.
C'est très drôle.
Au sol. Et en fait, tout le monde a rigolé. Mais moi, je voulais pas faire rire. Alors, comment je fais pour éviter de faire rire les gens?
Attends, mais moi, je trouve que la meilleure façon de faire rire, c'est de pas se rendre compte qu'on fait rire. Donc, t'inquiète pas.
Donc, c'est un avantage.
C'est pas un avantage, c'est justement.
Merci Evelyne.
Non. Il faut pas que ce soit un avantage. Il faut le laisser situer à fond dans ce que tu fais et que ça fait rire les gens. Ça te regarde pas, hein. Ça les regarde. On est toujours avec quelqu'un en face ou quelqu'un avec. Donc, franchement, il faut juste. Taper une fille, putain, ça c'est... À jouer, ça... C'est pas rien, surtout en ce moment. Mais il faut le faire. Il faut essayer de le jouer. Et pas essayer de dire qu'est-ce que je provoque avec ça.
Moi, c'est sur un personnage que je galère. C'est le personnage d'Antigone. Je galère parce qu'en fait, c'est un personnage qui a beaucoup de casseroles derrière lui et je ne sais pas du tout comment l'interpréter. J'ai l'impression de ne pas le servir au plateau, ce personnage.
Attends, qu'est-ce que ça dit, casserole?
Ouais, des casseroles derrière lui. Enfin, je veux dire, il a un lourd passé. Antigone a un lourd passé.
Antigone, elle se démerde toute seule, tranquillement. Antigone, elle existe malgré tout. Elle est là, elle est écrite.
Oui.
Non, il n'y a aucune inquiétude. J'adore ce personnage.
Et moi aussi. C'est pour ça.
Mais elle a une histoire, puisqu'elle vient de tellement loin. Mais chaque époque a pris, a volé à Antigone quelque chose qu'elle n'avait pas au début. Toutes les époques ont fait parler Antigone pour parler d'elle-même. Essaye un peu de parler d'Antigone que pour elle-même.
J'essaierai.
Merci beaucoup, Evelyne Didier.
Merci. Et moi, maintenant, je vais sûrement aller manger avec mon copain avant d'aller travailler. Et je vous souhaite merde pour ce soir.
Moi, je vais mettre ma petite veste d'agent d'accueil pour me préparer pour le spectacle de ce soir.
Et je vais aller boire une bière.
Et moi, je vais vous dire quelque chose que j'avais envie de vous dire encore. Que quand j'étais petite, j'avais un oncle qui m'avait dit « Je vais te dire tomate et tu vas rougir. » Et il avait pris cette habitude, il me disait tomate. Je rougissais, je le sentais que ça devenait chaud comme ça. Et bien maintenant, si je réfléchis à ça, c'est lui qui m'a obligée à faire du théâtre. Parce que dire tomate et devenir rouge, c'est quand même fou, non?
Oui. Ben merci.
Merci beaucoup.
Merci.
L'enfance de l'art, une masterclass avec les élèves de la classe de la comédie, CDN de Reims. etcomedie.fr.